On va commencer avec Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilhan et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des arbres au milieu des champs, et voici, ma berge se leva et se tait debout, et vos berges l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères et il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ma mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de cette chose. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Bien, je vais t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le raconta comme il était dans les champs et il le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils confrontèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une de ses citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leur chameau était chargé d'aromates de baume de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands, Madianites, ils tirèrent, et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et en tuèrent un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui disant, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Donc, nous sommes dans Genèse, chapitre 37. Et nous allons voir l'histoire de Joseph, qui est en soi une histoire très connue. Déjà à un très jeune âge, on apprend à propos de Joseph et de cette histoire. Comme un des pasteurs que j'ai connus aime bien dire, Joseph, en fin de compte, ou plusieurs histoires qu'on apprend aux enfants, n'est pas une histoire pour les enfants. On se rappelle ici que Dieu, à travers Joseph, va délivrer son peuple. Dieu, à travers Joseph, veut utiliser son peuple, veut utiliser Joseph pour sauver son peuple, pour former l'alliance qu'il avait promis. Est-ce que le plan de Dieu pour nos vies nous garantit aucun obstacle, aucune difficulté, aucune opposition? Si c'est le plan de Dieu, ne devrons-nous pas échapper aux obstacles de la vie? Et en fait, comment savons-nous que c'est le plan de Dieu, si ce n'est quand nous sommes bénis, que tout fonctionne à notre avantage? L'histoire de Joseph nous donne la réponse à cette question, et ça en commençant avec Genèse chapitre 37. Dans ce chapitre, on va observer qu'il y a vraiment un parallèle entre la vie de Joseph et de Israël, Jacob, son père. Ils ont tous été, les deux, favoris de leur famille. Genèse 37, 2 à 4. Ils ont tous les deux reçu une prophétie de leur avenir. Genèse 37, 5 à 11. Tous les deux, leurs frères veulent les tuer. Et tous les deux sont forcés de se rendre dans un pays étranger. Nous venons à nous demander que si Dieu avait vraiment prévu de délivrer Joseph au-dessus de sa famille, de l'élever au-dessus de sa famille, Dieu n'aurait pas dû agir autrement que la manière que ça s'est accompli. De toute évidence, ici, Joseph s'est probablement trompé sur le songe qu'il avait eu, le rêve qu'il avait eu. Il aurait peut-être mieux fallu pour lui garder tout cela à l'intérieur de son cœur. Ainsi, on lit, Jacob demeura dans le pays de Canaan, au verset 1, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères. Cet enfant était auprès du fils de Bilhan, fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père tous leurs mauvais propos. Et donc ici, on a la relation, on a le chapitre qui conclut, comme on avait vu, et là, on est introduit à un nouvel événement, des nouveaux événements, une nouvelle histoire. Et ici, on est avec Joseph qui a 17 ans. Joseph, on voit qu'il s'entretient plus avec les enfants de Bilhan et de Zilpa. Donc, on se souvient de cette tension qu'il y a entre le clan Jacob et tous ses fils. Donc, Joseph, est-ce que n'est pas avec les enfants nécessairement de Léa? Et ici, il prend soin des brebis, une tâche qui a été donnée aux plus jeunes, on se souvient à David, tout ça. Donc, rien de surprenant ici pour nous. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc ici, il y a deux philosophies lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph. Il y a les personnes qui croient que Joseph, dans toute l'histoire, rien n'est mentionné à propos de lui, qu'il a fait quelque chose de mal. Réellement, quand on pense aux histoires d'enfants qu'on avait à propos de Joseph, Joseph est en fin de compte un peu le Daniel ou, jusqu'à un certain point, Jésus. Et sans enlever le fait qu'il y a réellement un type dans Jésus et Joseph, Joseph, dans cette histoire-là, je vais prendre l'autre perspective où il n'est pas réellement l'homme ou l'adolescent qu'on perçoit comme sans péché, si je pourrais dire. Donc, lorsqu'on lit que Joseph alla vers son père pour parler des choses que leur fils avait fait de mauvais, en fin de compte, le terme ici pourrait être construit comme Joseph allait rapporter des choses à propos des frères, mais d'une manière à les diffamer. Donc, Joseph fit un mauvais compte rendu de ses frères à leur père, où Joseph porta atteinte à la réputation et à l'honneur de ses frères. Et on voit ça parce que dans Nombre 13, 32, dans ce même idée d'optique est utilisée lorsque les espions ont diffamé la grâce de Dieu auprès du peuple lorsqu'il fallait aller à la terre promise. Ils ont dit qu'il y avait des géants, qu'on ne serait pas capable, et ainsi de suite. Ils ont décrit la situation dans une exagération qui a fait en sorte que les gens ont décidé de ne pas aller selon ce que Dieu avait dit. Donc ici, Joseph, en fin de compte, n'oubliez pas, c'est un enfant choyé. Depuis sa tendre enfance jusqu'à maintenant, c'est le préféré de papa. Imaginez un enfant élevé dans cette atmosphère-là et vous avez Joseph qui a, avec une certaine orgueil, une attitude orgueilleuse envers ses frères, sachant que son père l'aimait plus qu'eux. En fin de compte, on peut même penser que tout ce que Joseph allait rapporter, peut-être que son père n'allait même pas vérifier la véracité de ce qu'il avait à lui dire. Ce que mon fils, que j'aime tant, me dit, je l'accepte parce que je l'aime tant. Donc, on est parfois biaisé par cette attitude-là. Donc, toute cette perspective-là, de voir que Joseph, en fin de compte, avait cette attitude de diffamer ses frères, vient de la Bible nette. Donc, Joseph, on peut le percevoir comme un adolescent gâté. Donc, toujours eu facile dans la vie comparé à ses frères. Donc, ici, on a Joseph qui rapporte à leur père leurs mauvais propos, qui, en fin de compte, décrit les frères d'une manière peu gentille. Et en fin de compte, cette même illustration se voit avec Jacob et Isaac, que Jacob préférait Ésaü face à Isaac préférait Ésaü face à Jacob. Donc, on est là dans cette situation-là où Jacob avait vraiment vécu cette séparation-là avec son père ou cet amour qu'il aurait voulu avoir égal à égal avec Ésaü. Et pourtant, ça n'a pas été suffisant pour lui que de recréer ce cycle de péché.
Je voudrais juste dire pourquoi il aimait Joseph et Benjamin, c'est parce que c'était les fils de la femme qu'il aimait tant.
Oui.
Alors, c'est normal que si tu es en couple avec une femme que tu n'aimes pas, tu manifesteras peu d'amour pour ta progéniture pour tes enfants. Mais si tu es en couple avec la femme que tu aimes tant et que c'est une femme que tu aimes tant, tu donnes des enfants, tu vas plus les aimer.
Oui. J'aime bien quand tu dis c'est normal, on s'entend, mais souvent tu dis dans notre nature adamique. Oui, c'est normal, mais on s'entend que pour un père, il doit s'efforcer d'avoir le même amour pour ses enfants. Et ainsi, on lit au verset 3, « Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. » Donc, le favoritisme que Jacob crée est l'initiateur du conflit qui existe entre la famille. Autant l'attitude de Joseph que l'attitude des frères. C'est vraiment Jacob qui crée cette initiation-là à propos de ses fils. Donc, au cours de mon étude, j'avais presque pensé regarder ce passage-là sous le cycle du péché et poser la question, est-ce qu'on peut briser le cycle du péché? Mais réellement, on voit ici peut-être plus une question de comment Dieu nous révèle que son plan, on est en accord avec son plan. Et donc on lit, oui, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et on sait, Joseph avait été eu par, comme tu avais dit, Rachel, était vraiment un désir que, on sait que Rachel avait prié longtemps pour ça et qu'elle avait finalement eu. On peut même penser que Joseph, étant le premier-né, avait même un amour plus spécial que celui de Benjamin, parce qu'il était le premier-né, et comme on sait dans ce milieu-là, le premier-né avait une grande importance. Donc l'amour était vraiment toute particulière, celle que Joseph avait par rapport à toutes ses frères. Et par cause de cet amour, on lit que Jacob lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc ici, encore dans les histoires d'enfants, c'est une tunique multicolore qu'on voit avec plein de couleurs. Ben, c'est pas ça réellement que c'était. C'était une tunique avec probablement plus des longues manches et aussi qui allait un peu plus loin en terre. Donc, s'il fallait travailler dans la vie, vous comprenez que si j'ai des longues manches et une tunique très longue, il m'est difficile de travailler. Donc, c'était vraiment un état de statut que son père lui remettait. Et on voit plus tard que Joseph ne se débarrassait pas de cette tunique-là. Quand il va se rendre voir ses frères, il avait la tunique. Donc, c'est comme si Joseph, il arrêtait d'être un berger. Quand il fallait travailler, on avait une tunique à manches courtes et plus courtes pour pouvoir, évidemment, pouvoir se déplacer plus facilement. Donc, Joseph se déplaçait un peu comme on pense aux pharisiens, lentement, avec stature, parce que là, il avait été élevé. Et cette situation-là n'est pas là, et là, elle n'est pas toute le conflit qui existe. Donc, à partir du verset 4, ici, on a une escalation de l'animosité qui est ressentie entre les frères de Joseph à son égard. Et les événements ici s'intensifient. Vraiment, le langage, là, il faut le voir. Comme vous voyez, « et voici, me voici », et des fois, c'est même pas traduit. Donc, il y a vraiment une séquence où là, on est en train de nous dire, regardez ce qui arrive, regardez ce qui arrive, et vraiment, il y a une escalation dans le fait que les frères sont en haine devant Joseph. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Et encore là, on retourne avec le parallèle de Jacob avec Ésaü, où Ésaü a eu de la haine pour son frère Jacob, et voici ici que les frères ont le même comportement, à un tel point qu'il est facile de dire que c'était tangible. Donc, encore une fois, Jacob a vécu cette situation-là, mais il semble ne pas y prendre garde. Donc, le niveau d'animosité est à son comble présentement. Il suffit juste d'une goutte d'eau pour faire déborder le vase. Et donc, leur raison de leur haine, ce qui alimente leur haine, c'est que Joseph rapporte leur mauvaise action. Joseph est plus aimé par son père. Joseph reçoit des cadeaux. Là, on a la tunique, mais il faut comprendre que probablement que Joseph avait reçu d'autres choses tout au long de sa vie. Et là, on va rentrer avec le fait que Joseph a des songes, des rêves de supériorité. Donc, le favoritisme crée de la jalousie, qui crée de la haine, et qui finalement, on va voir, va créer le meurtre. Et donc, au verset 5, on lit, Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qu'ils le haïrent encore davantage. Jacob aussi avait eu des songes, on se souvient, avait eu des rêves, et jusqu'à maintenant, on était convaincus que ceci venait de Dieu. Par contre, ici, dans les songes ou les rêves que Joseph a, il n'est pas mentionné que cela vient de Dieu. Et même Joseph lui-même, dans sa description de ces rêves-là, n'a pas mentionné « Dieu m'a révélé que ». Et il va falloir que seulement que la famine, qu'on se transporte à la famine pour vraiment qu'on comprenne que c'était vraiment une prophétie que Dieu avait fait, avait donnée à Joseph. Pourtant, dans ce temps-là, les rêves et les songes avaient une perspective un peu divine, mystique. Donc, d'avoir un rêve pouvait avoir un semblant que un Dieu m'avait parlé, il m'avait donné une révélation autre que celle que les gens avaient. Donc ici, quand Joseph a ce songe-là, Jacob doit, quand on lit qu'après ça, dans sa tête, il se repasse, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il se rappelle lui-même avoir eu des songes dans le passé, et donc se demander possiblement que Dieu avait encore une fois l'idée en tête de prendre le plus petit et de l'élever au-dessus des plus grands. Et donc, pour revenir à notre question, nos vies ne sont pas si différentes et plus souvent qu'autrement, nous ne pouvons pas faire de sens de ce qui nous arrive et dans quel but ultime sur cette terre ces événements se produisent. Entre autres, si on regarde juste comment Dieu souvent intervient à propos de nos péchés, nous ne recevons même pas les conséquences qu'on devrait recevoir de la manière que nous les méritons à cause de notre péché. Et pourtant, Dieu intervient d'une manière toute spéciale. Et ainsi, souvent, on est emprunt à un questionnement du fait que je suis convaincu que Dieu m'a dit de faire quelque chose. Mais pourtant, les événements autour de nous me semblent me dire que Dieu veut que je ne poursuive pas cette idée, cet appel. Et dans un sens, pour nous qui savons que ce songe vient de Dieu, on regarde l'histoire de Joseph et on se demande, est-ce que vraiment Joseph a compris qu'est-ce que Dieu veut de lui, puisque tous les événements ne semblent pas conduire à lui étant été élevé. Remarquez qu'il n'y a pas de date inscrite dans quand Dieu va accomplir cet événement-là, mais il va l'accomplir. Donc, il y a eu un songe. Et Joseph vient et dit, « Et voici ce que Dieu a fait, et voici, Dieu m'a dit que vos gerbes, et voici, et il indique vraiment l'intensité du rêve. » On voit l'intensité de Joseph, il est comme « Wow! » En plus de l'amour de mon père, imaginez-vous donc, je vais être au-dessus de vous. Et donc, ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage par ses songes et par ses paroles. Donc, pour eux, il n'y a pas de doute qu'est-ce que la signification du songe veut dire. Même pour nous qui le lisons, l'image illustrée est vivide. Le mot « prosterner » parle évidemment de soumission de la part des gens qui se prosternent par rapport à l'autre personne. Donc, on peut comprendre que les frères sont comme « Pour qui te prends-tu? » Tu penses réellement que tu vas régner par-dessus nous? Tu penses réellement que nous, on va venir et se prosterner devant toi, se soumettre à toi? La particularité d'un songe et d'un rêve, c'est qu'on ne le contrôle pas. Mais peut-être que Joseph aurait dû contrôler sa langue. Peut-être aurait dû aller voir son père en privé. Et on ne peut pas accuser Joseph d'avoir eu ce songe-là, parce que c'est comme incontrôlable dans le sens, les rêves et les songes, tout ça. Et donc, les frères sont en déni et ne peuvent tout simplement pas penser que cette réalisation-là va se produire. Et voici que Joseph a un deuxième songe. Donc, on se souvient, la haine des frères peut être coupé au couteau. C'est tellement tendu là qu'il faut être aveugle pour pas voir l'animosité qu'il y a. Mais Joseph, il a un second songe, puis évidemment, il décide qu'il va encore le dire à ses frères et à son père. Et là, on voit que réellement toute la famille va se prosterner devant lui. Et là, son père le réprimande. Parce qu'il faut penser que à cause de ses paroles, là, il y a les songes, puis à cause de ses paroles, fait qu'il y a la description des songes, puis après ça, il peut avoir tout le autour de ce que Joseph peut dire. Donc, son père le réprimande, mais il y a déjà tout de suite une tournure où son père repense dans sa tête à tous les songes que probablement lui, il avait eus. On voit ça dans Genèse 25, 23. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » C'était ça la prophétie qu'il avait eue pour Jacob. Et voici qu'elle se répétait à nouveau en Joseph. Et donc les frères, comme à leur coutume, prennent le bétail et vont pour les amener à manger. Et le fait qu'ils s'éloignent autant veut lui montrer probablement une certaine sécheresse dans le pays, dans le fait que ça fait longtemps qu'il n'y a probablement pas plu, donc de plus en plus qu'ils s'éloignent pour trouver de la nourriture. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils se rendent à Sichem. Donc, encore là, soit que la crainte de Dieu est encore sur les peuples qui fait en sorte que les fils sont protégés. Ils ont, d'une certaine manière, aucune gêne de retourner là. Et c'est une certaine distance de se rendre à nouveau. Donc, ils sont partis pendant un certain temps lorsque Jacob demande à Joseph d'aller les voir. Et qui de mieux que Joseph pour se rendre, pour s'enquérir des frères et de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que Joseph va vraiment dire tout ce qui se passe et tout ce qui ne fonctionne pas. Et donc, il est prêt, Joseph, à répondre à l'appel que son père lui donne. Donc, encore là, avec toute l'animosité qu'il y a, on peut se demander pourquoi Jacob demande à Joseph d'aller ainsi. Il semble comme... Encore une fois, on se souvient, Jacob souvent est retiré, il n'intervient pas, il est silencieux dans beaucoup de situations, et même là, il envoie son fils vers ses frères. Probablement qu'il ne sait même pas où les frères sont, là. Il connaît la direction, mais il ne sait pas jusqu'à où ils sont évidemment rendus. Donc Joseph se rend jusqu'à Sichem, et rendu à Sichem, il rencontre un homme qui lui demande « Qui cherches-tu? » Et c'est étonnant parce que l'homme semble connaître cet entourage-là. Donc, il lui dit « Ah oui, j'ai vu tes frères, ils vont à Dothan. » Et donc, Joseph se rend à Dothan. Au verset 18, on lit « Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. » Et ils le virent de loin parce que la tunique, hein, on peut penser à la tunique et à la démarche de Joseph. Et ici, ils complotent de le tuer. Et encore une fois, on a cette même illustration avec Jacob et Ésaü, où la mère de Jacob doit intervenir pour lui dire « Va-t'en, ton frère va te tuer ». Et quel meilleur moyen que de briser un songe que de tuer la personne? Si la personne, elle est morte, il n'y a aucune manière que ce songe va se réaliser. Et ici, on voit que Ruben, au verset 21, a entendu cela et il le délivra de leurs mains en leur disant de ne pas le tuer. Donc, qu'est-ce qui pousse, vous pensez, Ruben à vouloir sauver la vie de Joseph? Pourquoi pensez-vous que Ruben intervient pour sauver la vie de Joseph?
Parce
particulièrement important.
Peut-être qu'il va être responsable parce qu'il est le plus
vieux. Oui. Plus vieux, responsable.
Peut-être que même s'il invitait Jacob, il était plus malade à l'état de la prison. Il voulait juste le voir partir, mais pas le tuer.
Oui. Donc, c'est ça. Même si qu'il y a une emphase sur le fait que Jacob aimait plus Joseph que les autres, il reste pas moins, je pense, que Jacob aimait ses autres fils et filles. Donc, après ça, il y a, oui, étant le premier-né, Ruben avait cette responsabilité de prendre soin de la famille. Rappelez-vous que Ruben aussi a été envers Bilhal. Et ici, on peut penser que Ruben veut comme restaurer la relation qu'il a avec son père, de l'avoir trahi en allant vers sa femme. Et on voit un peu cette réaction comme très vive du fait qu'il va déchirer ses vêtements. Il est déjà un peu en défaveur avec son père suite à sa réaction avec Bilhal. Et là, maintenant, il va perdre l'enfant le plus aimé de son père, lui qui est responsable. Il n'y a pas de doute que là, Ruben, il faut qu'il arrange cette situation-là. Et on voit encore, il use d'une certaine manière de ruse pour convaincre ses frères. Parce que d'aucune manière, il aurait pu leur dire, ne le tuons pas et ramenons-le chez lui. Il sait l'intensité avec laquelle il est avec ses frères. Donc, la seule manière, c'est d'avoir un plan, un autre plan rusé pour pouvoir délivrer par la suite Joseph. Donc, c'est cette situation-là que Ruben se retrouve un peu coincé. Il doit garder Joseph en vie, sinon il vient encore plus de descendre dans la liste de son père. Et donc il lui dit, jetez-le dans cette citerne. Donc on comprend que les citernes étaient assez grandes pour permettre en sorte que la personne ne pourrait pas sauter. Là. Donc c'était vraiment creusé en vue de ramasser l'eau. Donc, les citernes étaient un moyen qui était prévu de ramasser l'eau de pluie dans ces environnements-là. Donc, ils pouvaient vraiment être très profonds. Le dictionnaire Lexham dit « Les citernes servaient de réservoir utilisé pour compléter l'approvisionnement en eau d'une région en recueillant les précipitations. » Et ce qui est intéressant, c'est que plus loin, Moïse nous dit « Inquiétez-vous pas, la citerne, elle est vide. » Parce que sinon, Joseph serait noyé dedans. Est-ce que ce qui nous rappelle que si la citerne elle est vide, c'est vraiment qu'il n'y a pas eu beaucoup d'eau depuis un certain temps. Et là, quand Joseph arrive au verset 23, ils sont là et ils sautent dessus, ils le dépouillent de sa tunique et ils le prirent et le jetèrent dans cette citerne qui était vide. Ils s'assirent ensuite pour manger. Comment décrivez-vous le comportement et l'attitude des frères de Joseph à ce point de l'histoire? Ils s'assirent pour manger. Qu'est-ce que vous percevez avec le fait que les frères s'assirent pour manger et leur attitude face à leurs frères et leur comportement?
Les frères disent que c'est nous autres qui le composent sur lui, non lui qui le
composent.
Une satisfaction de vengeance.
Oui.
Pour désensibiliser ce qu'ils ont fait.
Oui. Ils sont décidés. Il n'y a pas autre chose à faire. Joseph va mourir. C'est à tel point qu'ils sont en mesure de vaquer à leur occupation normale. Rappelons-nous que parmi ses frères, il y a Lévi et Simon qui ont massacré une ville entière. On parle d'hommes qui sont prêts à tuer et qui l'ont déjà fait. Et si on se rappelle que les frères sont allés dépouiller une ville, vous avez vraiment le caractère endurci des frères à ce moment-là. Donc, si Dieu voulait intervenir à ce moment-là, il fallait que ça se fasse maintenant. Comment le fait que Joseph allait être élevé par-dessus ses frères allait se produire? Est-ce que Joseph était silencieux? Non. Joseph a crié. Joseph les a suppliés. On voit plus tard dans Genèse 42, 21-22. Ils se dirent l'un alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. » Imaginez, il s'assoit pour manger, il y a Joseph à côté qui crie, qui supplie de leur laisser sortir. Joseph, il est pas mal convaincu que la situation est grave et eux, ils vont tout bonnement aller pour manger. Alors, quand on lit ça, on doit dire, ben Dieu va intervenir et Dieu intervient. Levant les yeux, il y a une caravane qui s'en vient. Une caravane d'Ismaélites. Et donc, les Ismaélites et les Midianites, selon un dictionnaire, étaient des groupes distincts. Donc, on se souvient de ce nom-là qu'on entend Ismaélites, ça nous rappelle, mais qui se chevauchaient parfois dans, les récits bibliques. Évidemment, les Ismaélites sont les descendants d'Ismaël, le fils d'Abraham avait eu avec Agar, tandis que les Madianites étaient les descendants de Madian, le fils d'Abraham avec Keturah. Et on peut voir comment Dieu, dans tout ça, quand il dit « J'ai choisi un peuple, mais qui quand même prend soin des autres peuples », Dieu vraiment, toute cette... Et on voit toutes les répercussions du péché, de voir comment tout ça se produit. C'est quasiment drôle que Dieu livre Joseph entre les mains, d'une certaine manière, encore de sa famille lointaine. Donc, ces deux groupes-là étaient des nomades dans des régions désertiques de l'Arabie. Donc, ici, c'est ça, les Ismaélites et les Midianites. Donc, une caravane d'Ismaélites venant de Galaad, leur chameau était chargé d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Et ainsi, Juda a l'idée de vendre Joseph à cette caravane-là qui se rendait en Égypte. Et ainsi, on voit encore la même relation entre Jacob et Joseph, que les deux sont forcés de quitter le pays où ils sont pour aller dans un lieu étranger. Et donc, les frères écoutent cette fois-là, parce qu'ils ont encore plus une idée de gain financier par rapport au fait de juste avoir Joseph mort. De toute manière, il va être débarrassé de lui pendant très longtemps. Et l'argent ici qui est offert, c'est considéré comme 2 ans de salaire pour un berger. Donc, vous voyez que c'est quand même une somme assez considérable. Pensez à votre salaire que vous avez ou que vous avez eu, multipliez ça par 2 et c'est ce qui a été vendu. L'idée de... à quel point c'était beaucoup d'argent d'avoir vendu Joseph au lieu de le tuer. Et donc, au verset 29, on voit Ruben qui revient, et Joseph n'est plus dans la citerne, il déchire ses vêtements, et le fait de déchirer ses vêtements, c'est vraiment un geste symbolique, significatif d'une profonde détresse, d'une émotionnelle et un profond chagrin. La même optique va se dérouler quand Jacob va recevoir la vie de son fils. Donc, c'est pour ça qu'on se demande pourquoi Ruben a une détresse aussi grande. Et c'est là qu'on essaie de comprendre son état vraiment avec le fait qu'avec Bilhal, et là, il perd maintenant le fils bien-aimé de son père. Ce n'est pas une bonne optique pour lui. Et lorsqu'il va voir les autres frères, il décide de prendre la tunique et de le tremper dans du sang de bouc.
La même question, parce que d'une partie, j'avais bien compris, Ruben était, très sensible à ce que Joseph fait sans lui. Là, vous dites, tous les freins sont dessus, vous dites sur le puits, mais vous pouvez aussi qu'elle partir. Si je disais, si je finis à mon frère, je serais resté là.
Ouais, non, mais il a vraiment été quelque part.
Ouais, c'est ça.
Et peut-être qu'il s'attendait qu'il y ait, peut-être qu'ils ont des endroits que chacun va, je sais pas.
Ouais.
Et donc, il va à la rencontre des frères, et là, il leur dit, comment ça, l'enfant n'est pas là? Encore là, il ne s'est pas écrit, mais ils ont probablement dit qu'il avait vendu tout ça. Et donc, il décide de tremper la tunique dans le sang et de l'envoyer au père. Remarquez que la réaction de Jacob ici, c'est un peu dans la même supercherie que Isaac quand Jacob est venu le voir. Oui, il y a une certaine... C'est comme si il n'a pas essayé d'en savoir plus. Il a tout de suite fait une conclusion par rapport à ce qui s'était passé. Moi, dans la lecture que je fais, c'est comme si le manteau, la tunique avait été envoyée avant que les frères arrivent. Puis là, il voit la situation, puis il décide que c'est comme si un messager a été envoyé. Peut-être que les frères étaient là à ce moment-là, c'est possible. Et là, il va vraiment être dans une tristesse incroyable du fait qu'il ne pourra plus, même personne ne pourra le consoler. Et donc, le séjour des morts, juste pour faire une parenthèse, dans ce temps-là, il pensait que les gens se rendaient au séjour des morts, qui était une zone tampon par rapport à aller directement au ciel. Si vous voulez faire une étude par rapport à ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a toute une relation au fait que Jésus, quand il est mort, dans certains passages, il est dit qu'il est allé au séjour des morts. Donc, je ne vous en dis pas plus. C'est pour piquer votre curiosité et d'en faire la recherche par vous-même par rapport à ça. Donc, est-ce que le plan de Dieu pour nos vies nous garantit aucun obstacle? Aucune difficulté? Aucune opposition? Non. Le plan de Dieu n'est pas une garantie que nous échapperons aux difficultés jusqu'à l'accomplissement de notre destinée. Imaginez, même Jésus, le Fils que Dieu aimait, n'a pas échappé à l'opposition. Et pourtant, qui autre que Jésus était dans le plan parfait de son Père? Comme Jésus, comme Joseph, Jésus a eu plein de prophéties à propos de lui, dont certains le décrivent comme le Messie. Comme Joseph, Jésus a été haï par ses proches. Comme Jésus, un complot contre lui pour le faire tuer a été fait. Comme Joseph, Jésus a été forcé d'aller dans un autre pays. Et ça donne que c'est en Égypte. Et comme Joseph, Jésus a été vendu pour une somme d'argent. Donc, il est important de noter que même si on est convaincu de comprendre l'appel de Dieu pour chacune de nos vies individuelles, l'histoire de Joseph nous rappelle que nous ne sommes pas à l'abri de rencontrer des épreuves difficiles et des imprévus. Ainsi, les difficultés rencontrées dans nos vies ne sont pas une image que Dieu désapprouve ou ne nous conduit pas vers la direction qu'il nous appelle. La vie de Jésus encore est un exemple concret de cela. Mais c'est notre tendance naturelle qu'à la première difficulté qui se pointe, de se questionner sur est-ce que j'avais vraiment, réellement bien compris qu'est-ce que Dieu me demandait de faire. Comment cela se peut-il si c'était Dieu qui m'avait dit de me rendre jusqu'ici? Nous devons plutôt espérer à la providence de Dieu de faire de nous des hommes et des femmes qui le considèrent comme le plus grand trésor de nos vies et qui manifestent notre plus grande satisfaction en lui. En fin de compte, Joseph va être transformé, du jeune adolescent gâté, et devenir un homme qui est prêt à pardonner les plus grandes atrocités qui lui ont été faites. Et ainsi, on lit dans Genèse 45, verset 5 et verset 7 et 8. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Père, je te remercie parce que notre confiance repose sur le fait que tu nous diriges, que tu es avec nous, que tu ne nous abandonnes pas. Et tu nous l'as montré en donnant ton Fils à la croix pour nous, de nous pardonner nos péchés. Donne-nous de regarder Jésus et d'avoir l'espoir d'un jour d'être avec toi, transformé, renouvelé d'une manière parfaite et éternelle. Maintenant, donne-nous du courage sur cette terre de s'attendre à ton intervention dans nos vies. Par ton esprit, donne-nous de dépendre de toi et que malgré les difficultés qu'on a autour de nous, qu'on puisse répondre à l'appel que tu nous donnes. En ton nom, Amen.